l'entretien.
Si au cours de l'entretien, vous avez de la difficulté, levez la main, faites un signe, puis montrez l'oreille. Je ne pense pas que ça veut dire que je ne suis pas bien de là, mais simplement que vous n'entendez pas. Est-ce que c'est parti? Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de me retrouver avec vous autres. Je commencerai par vous conter une histoire. Dans mon temps, quand j'étais jeune, il y a de cela très, très, très longtemps, il y avait des retraites paroissiales qui étaient prêchées par des dominicains, des franciscains, des jésuites. Et dans ces retraites-là, il y avait toujours le même schéma. On commençait ça mollo le dimanche soir, lundi, et au fur et à mesure qu'on avançait, ça devenait de plus en plus sérieux, de plus en plus grave. Et le mercredi, habituellement, on plongeait dans les enfers. C'était le sermon sur les fins dernières, avec le diable, les lances, le feu qui brûle, et tous ces avantages qui nous étaient donnés grâce à nos péchés qui étaient extraordinairement très graves, surtout ceux de la sexualité. Et là, c'était la descente aux enfers. Et il y avait dans une paroisse un petit garçon que sa mère amenait à la retraite, et c'était un capucin qui prêchait la retraite. Et le mercredi soir, le capucin en mettait beaucoup, et le petit gars avait peur, il était tout torché vers sa mère, puis il avait peur. Et à un moment donné, dans un élan oratoire, le capucin lève les bras comme ça, il prêchait dans la chair, et son cordon blanc passe par-dessus la chair. Le petit gars de sa mère, « Maman, maman, viens-t'en, il est détaché! » Peut-être que vous ne voyez pas tout de suite le lien entre cette histoire et la rencontre d'aujourd'hui, mais tout de suite, je peux vous dire que notre religion, elle n'est plus maintenant, grâce à Dieu, une religion de peur, mais une religion de vie, de paix, de joie. La rencontre d'aujourd'hui a pour thème une loi non à abolir, mais à accomplir. Et ce thème, il est en lien avec celui général, une loi de l'amour, une loi nouvelle, et aussi en lien, nous le verrons à la fin, avec la rencontre du mois passé avec Mgr Couture. Une loi non à abolir. Moi, habituellement, je commence toujours, quand je fais des choses comme cela, à aller voir dans le dictionnaire. Le dictionnaire, ça nous donne le sens des mots et ça fait une bonne partance. Abolir, on le sait tous finalement, ça veut dire supprimer, ça veut dire rendre caduque, dépasser, périmer. C'est ce qu'on voit périmer là, sur tout ce qu'on achète. Meilleur avant telle date. Moi, actuellement, c'est meilleur avant 80 ans. Alors, il m'en reste encore 6. Accomplir, ça veut dire faire quelque chose jusqu'au bout, mener quelque chose jusqu'à la fin. Accomplir, ça veut dire perfectionner, réaliser un projet, un plan jusqu'à la fin. Abolir, on supprime. Accomplir, on réalise un projet, on l'emmieuse. J'ai l'expression, on l'emmieuse. Je vais vous lire tout de suite le texte qui est proposé. C'est à partir de ce texte que nous allons entamer notre réflexion. C'est un texte qui est tiré de l'Évangile de Matthieu au chapitre 5, dans les versets 17 à 20. Jésus disait, « N'allez pas croire que je sois venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Car en vérité, je vous le déclare, avant que ne passent le ciel et la terre, pas un « i », pas un point sur le « i » ne passera de la loi, que tout ne soit arrivé. Dès lors, celui qui transgressera un seul de ces petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Si on replace ce texte évangélique dans son contexte, c'est-à-dire avec ce qui précède et avec ce qui suit, ça nous aide déjà à comprendre, à commencer à comprendre un peu ce que Jésus veut nous donner comme bonne nouvelle. Ce qui précède, c'est le sermon sur la montagne où Jésus proclame les béatitudes. C'est comme la loi nouvelle qui est résumée dans ce sermon sur la montagne. Et ce qui suit, c'est le Seigneur Jésus qui fait des liens avec la loi ancienne. Il y a comme un refrain qui revient tout le temps. Vous avez entendu dire que, vous avez appris que, moi je vous dis. Et Jésus, c'est là qu'il commence à expliquer ce qu'il veut dire par accompli. Comme on l'a vu tout à l'heure, accomplir dans le sens où Jésus l'emploie, ça veut dire réaliser une prophétie, remplir un filet, une mesure. Dans la langue de Jésus, c'était ça le sens du mot remplir. Et le contexte du sermon sur la montagne nous amène à comprendre le mot accomplir comme quelque chose qui est rempli, quelque chose qui est mené à sa perfection. Jésus ne se propose pas juste d'accomplir une prophétie, mais il veut l'amener à sa perfection et donner son vrai sens au code de vie religieuse. Souvent, on a été porté à prendre ça, accomplir, un peu comme mettre en pratique les 10 commandements. Ce n'est pas le sens dans lequel Jésus l'emploie. Il l'emploie plutôt dans le sens une ouverture de quelque chose qui est mené à son perfectionnement, qui nous amène plus loin. On pourrait commencer à se demander pourquoi Jésus parle ici de ne pas abolir la loi. C'est quoi qui l'a amené à dire ça? C'est parce que les docteurs de la loi, les pharisiens, les scribes, les légistes, les prêtres, les grands prêtres, tout ce monde-là l'a accusé continuellement, soit d'abolir la loi ou d'alléger certaines pratiques religieuses, comme le sabbat, le lavage des mains avant les repas, ramasser du blé dans un champ. Et on le voit tout au long de l'Évangile, et ça on va le voir là, tout à l'heure, continuellement les pharisiens, tous les chefs religieux mettent Jésus au défi, lui tendent des pièges, lui posent des questions, le contrarient. C'est pour cette raison que Jésus parle et commence par dire « Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour autre chose. » Si les pharisiens, les chefs religieux sont contre Jésus, c'est important de savoir, de comprendre leur réaction. Pourquoi ils sont de même? C'est que pour les Juifs, et plus spécialement pour les pharisiens, les scribes, les légistes, la loi qui a été donnée par Moïse, c'est quelque chose de sacré. On ne touche pas à ça, c'est immuable. Et le mois dernier, Mgr Couture nous partageait un texte de Deutéronome où on voit que ça remonte à loin, plus de 1000 ans avant Jésus. Je vais simplement vous lire un bref extrait pour le remettre en mémoire, pour nous faire comprendre c'est quoi qui amène les pharisiens à être tellement contre Jésus, à vouloir toujours le prendre au piège. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les commandements et décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les ordres du Seigneur tels que je vous les prescris. Vous n'enlèverez rien, regarderai ça tel quel, tel que je vous l'ai prescrit. C'est ce qui amène les pharisiens, les docteurs de la loi, à être vraiment aux aguets avec Jésus. Parce que Jésus, il est libre. Et en étant libre, ce qu'il fait passer d'abord et avant tout, c'est le bien des personnes. Et si jamais il y a un conflit entre le bien des personnes et le règlement religieux, Jésus invariablement choisit le bien des personnes. Et il le fait en toute liberté. Déjà, pour nous autres, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle que le Seigneur nous apprend. Il nous apprend, nous aussi, à être libres. Libres dans nos gestes, dans nos options, dans nos choix. Libres en nous orientant et en nous rattachant toujours à la loi nouvelle du Seigneur. Mais les pharisiens et tous ces chefs-là, ça les dérangeait beaucoup. Parce qu'eux autres, c'était le contraire. Pour être sauvés, il fallait observer les règlements. Il fallait suivre à la lettre les règlements. Il y en avait pas loin de 360, je pense. Et en faisant ça, on est assuré du salut. Plus on observait les règlements, plus on était certain du salut. Moins on les observait, plus on était pécheur, on était rejeté de la religion. Et Jésus prend parti, lui, pour les personnes. Il l'explique clairement, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir, l'ouvrir à quelque chose de plus, lui donner des dimensions nouvelles, la loi nouvelle. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va regarder justement qu'est-ce qui se passe entre Jésus et ces gens-là. Et ça commence presque tout de suite dans l'Évangile de Marc, c'est au chapitre 2. Je ne lirai pas tous les textes, je vais vous les raconter, et comme vous autres, vous êtes du bon monde, bien, vous savez, vous allez savoir de quoi je parle. Je n'ai pas besoin nécessairement de toujours lire les textes. Ça commence avec une belle guérison. Et vous allez vous en souvenir. C'est qu'un jour, il y avait des amis qui avaient quelqu'un de leurs amis qui était paralysé complètement. Il avait entendu parler de Jésus, il faisait des guérisons, il était compréhensif, il était bon. Alors ils se sont dit, il faut l'amener à Jésus. Et un bon soir, fin d'après-midi, ils décident d'amener leur ami. Ils étaient quatre pour le porter parce que complètement paralysé. Mais ils arrivent devant la porte, il y avait tellement de monde, un peu comme ici aujourd'hui pour la vaccination, qu'il aurait fallu faire la file et surtout il n'y avait pas moyen de s'approcher de Jésus. Alors ce qu'ils ont fait, vous en rappelez, ils ont fait quelque chose d'absolument, je dis innocent, vous allez comprendre dans quel sens. Ils ont monté sur le toit, les toits c'était des toits en tuiles, là. Ils ont tassé les tuiles, pour pouvoir descendre leur ami. Mais quand ça s'est passé, là, dans l'Évangile, ça dure une ligne, ça. Mais ça a duré quelques minutes, cette affaire-là, c'est sûr. Imaginez-vous, Jésus qui est en bas, les disciples, le monde de la maison des autres, puis là, il y a du gravier qui lui tombe sur sa tête, la poussière à travers ça. Ils ont dû dire, mais c'est qui ces innocents-là? Ils l'ont pas dit en français, bien sûr, ils parlaient l'araméen. Moi, je parle pas l'araméen. Bon. Et ils réussissent à descendre, le type, vis-à-vis Jésus. Quand Jésus voit leur foi, voit cette personne-là, sans poser aucune question, sans rien demander, Jésus dit à cet homme, « Mon fils, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Je ne reviendrai pas là-dessus pour expliquer plus longuement comment ça se fait que Jésus dit ça, parce que ça ferait partie peut-être de la même chose. Mais les pharisiens, les sadducéens qui étaient là, les scribes, quand ils entendent ça, entre eux, ils disent, voyons, hey, ça se peut pas, ils blasphèment, là, il y a toujours des limites, ils blasphèment. Et Jésus, il entend ça, et c'est à ce moment-là qu'il leur pose une question. Qu'est-ce qui est plus facile, de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Je sais pas si vous avez déjà pensé à ça, vous autres, moi j'ai déjà pensé à ça. Si la question m'était posée à moi, j'aimerais mieux dire « tes péchés sont pardonnés », parce que s'ils ne sont pas pardonnés, ça ne paraît pas. S'ils sont pardonnés, tant mieux. Mais si je dis « lève-toi et marche » et qu'il n'y a rien qui se passe, là, je l'ai fou. Alors moi, j'aurais répondu « c'est plus facile de dire « tes péchés sont pardonnés », mais le jour est en contradiction, parce que seul Dieu pardonne les péchés. Alors Jésus leur dit « pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, en regardant le paralytique, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. » Et aussitôt, l'homme se leva et s'en retourna chez lui. À toutes les fois, ou presque, où les pharisiens, les légistes, les gens de la loi religieuse viennent pour embêter Jésus, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et ici, on commence à voir, quand Jésus pardonne les péchés, déjà, il y a une ouverture vers quelque chose de neuf. Parce que les péchés n'étaient pas pardonnés de cette façon-là chez les Juifs. Il y avait une cérémonie à chaque année où on allait porter un bouc, je pense, là, pour en dehors de la ville, puis on mettait les mains dessus, les prêtres mettaient les mains dessus pour ce bouc-là apporter les péchés puis purifier le monde. Et là, la façon dont Jésus fonctionne, c'est tout à fait nouveau. Mais les pharisiens ne démissionnent pas. Parce que les pharisiens, c'est une sorte de parti religieux qui avait un zèle très apparent pour la loi religieuse, pour les choses de Dieu. Et eux autres, ils s'appliquaient à bien connaître la loi et à faire en sorte qu'elle soit bien comprise, bien observée. C'est bien certain que tous les pharisiens n'étaient pas pareils, et l'apôtre Saint-Luc, comme Paul, nous le font comprendre, Paul, c'est un pharisien. Et lorsqu'il a été en cour, à un moment donné, il y avait des sadducéens puis des pharisiens qui l'accusaient. Et Paul savait que pharisiens, sadducéens, il y avait une divergence. Pharisiens croyaient à la résurrection des morts, puis sadducéens ne croyaient pas à ça. Les pharisiens croyaient aux anges et aux esprits, puis les sadducéens ne croyaient pas aux anges et aux esprits. Et quand Paul a vu ça, il était là pour l'accuser, mais pour s'en sortir, il était pas mal intelligent, Paul. Alors à ce moment-là, il dit « Frère, vous me condamnez parce que j'ai annoncé que Jésus était ressuscité d'entre les morts. » Les sadducéens, ben, ça se peut pas, la résurrection ça n'existe pas. Les pharisiens, oui, ça existe. Ils sont machinés entre eux autres à un point tel que le Festus, le Romain, le chef Romain, je ne sais plus son titre, il est obligé d'être faire intervenir les soldats pour sauver Paul parce qu'il est en train de chicaner et de se l'arracher littéralement. Il est pour la résurrection, les pharisiens, puis les sadducéens disent non, il est pas, il est toujours dans les camps. Paul, à ce moment-là, il a dit qu'il était pharisien, fils de pharisien et fier d'être pharisien. Ça me fait comprendre qu'il ne faut pas mettre les pharisiens tous dans le même paquet. Parce que c'était du bon monde, les pharisiens, c'était des gens très religieux, c'était pas des bandits. Mais la façon dont Jésus procédait, ça les horripilait parce qu'ils ne comprenaient pas que lui, Jésus, un juif, de religion juive, qui allait à la synagogue, puisse parler et agir de cette façon-là. Et justement, Jésus allait à la synagogue et un bon jour, un jour de sabbat, alors que Jésus était à la synagogue, il y a des pharisiens et des hérodiens. Les hérodiens, c'est des gens qui sont des partisans du roi Hérode. Alors, ils sont allés à la synagogue, puis là, ils l'observaient pour voir ce qu'il fait, parce que ils surveillaient toujours pour voir s'il faisait des guérisons. Et là, à la synagogue, il y avait un homme à la main desséchée, la main paralysée. Et Jésus demande aux gens qui étaient là, aux pharisiens et aux hérodiens en particulier, est-ce que le jour du sabbat, c'est permis de guérir, de sauver une vie ou de la perdre? Et là, ils n'osent pas répondre. Parce que s'ils disent « c'est permis de guérir », ils vont à l'encontre du sabbat. Parce que justement, une autre fois où Jésus était à la synagogue, il a guéri une femme qui était courbée, le jour du sabbat à la synagogue, le chef de la synagogue est intervenu Puis il a dit à tout le monde, là, que ça soit clair pour tout le monde, il y a 6 jours dans la semaine. C'est clair, ça? Bien, si vous voulez vous faire guérir, venez durant ces 6 jours-là, mais pas le jour du sabbat. On ne se fait pas guérir le jour du sabbat. C'était de cette façon qu'ils observaient les règlements religieux. Et quand Jésus pose la question, ils ne sont pas pour répondre, on peut guérir. Non, non, ça allait à l'encontre de leur conviction. Et ce que Jésus fait, c'est pas compliqué. Il dit à l'homme qui avait la main desséchée, comme on dit dans l'Écriture, dans l'Évangile, « Lève la main. » Et aussitôt, en levant la main, l'homme était guéri. C'est à partir de ce moment-là que les pharisiens et les hérodiens ont commencé à se dire « Faut faire quelque chose, ça peut pas continuer, ça va nous mener trop loin. » On voit encore les pharisiens puis les hérodiens dans un autre épisode qui est vraiment important et qui nous permet de comprendre toute la hargne que ces gens-là avaient à l'encontre de Jésus. Un jour, les hérodiens puis les partisans d'Hérode, je vous les appelle même, parce que ça fait drôle d'hérodiens, ça ressemble un peu aux acadiens, je ne sais pas trop. Les partisans d'Hérode et les pharisiens envoient de leurs partisans, de leurs amis, pour poser une question à Jésus et l'embêter. Ils vont voir Jésus, puis ils disent, « Maître, vous allez voir, c'est filou, hein, vous allez comprendre. On sait que tu es bon, que tu dis toujours la vérité. On sait aussi qu'on peut se fier à ta parole. Tu es vraiment quelqu'un de bien, tu es un maître en Israël, on sait tout ça. » Et tu as un bon jugement sur tout ça, Jésus. On a même question à te poser. Est-ce qu'il est permis, oui ou non, de payer l'impôt, le tribut à César? C'est vraiment un piège. Et Jésus le voit tout de suite, c'est cousu de fil blanc, comme on dit. Jésus ne répond pas oui ou non. Et vous connaissez l'histoire. Jésus leur dit, montrez-moi donc une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie romaine. Ils avaient ça dans leur poche, eux autres, une pièce de monnaie romaine. De la monnaie qui rend impur à leurs yeux. Et Jésus leur dit, c'est quoi l'effigie là-dessus de César? Eh bien, rendez à César ce qui appartient à César. Puis rendez à Dieu, les pharisiens, les observants, les proches de Dieu, rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et là, les autres qui étaient là, bien, étaient dans l'admiration, parce que, vraiment, c'était assez fort comme réponse. D'autant plus qu'il faut savoir un peu qu'est-ce que ça impliquait plus profondément. Ce que ça impliquait, le tribut, payer le tribut à César, c'était une taxe spéciale. Bien sûr, il y avait les taxes sur les différentes choses, il y avait les douanes à payer. Mais le tribut, c'était une taxe qui était prélevée auprès de toute personne juive. Tous les adultes, les seuls qui étaient exemptés, ça c'était les enfants et les vieillards. Mais individuellement, tout juif devait payer le tribut à César. Et c'était le signe, je dirais par excellence, où le peuple juif ressentait la domination des Romains. C'est la raison pour laquelle les Zélotes, vous savez, on a fêté cette semaine Simon l'apôtre, Simon le Zélote. Les Zélotes, c'est un parti religieux, c'est un parti politique qui voulait chasser les Romains, envoyer les Romains dehors. Et eux autres, ils niaisaient pas avec la pote, pardonnez-moi l'expression, mais s'il fallait jouer du couteau, ils jouaient du couteau. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, dans un texte, je ne sais pas quel écrivain latin, vous allez vous rappeler de ça, vous savez vraiment ça. À un moment donné, il y avait les Zélotes qui en crucifiaient à tout bout de champ parce qu'ils prenaient des moyens assez rough, assez difficiles contre les Romains. Et les Zélotes interdisaient à leurs partisans de payer le tribut à César parce que c'était le signe de soumission par excellence de tout le peuple sous la botte des Romains. Ce qui est important aussi dans cet épisode-là, c'est que les pharisiens et les partisans d'Hérode sont unis ensemble pour décider du sort de Jésus. Mais pharisiens et publicains, ce sont des ennemis dans les faits. Les pharisiens, ce sont des hommes religieux, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, des hommes de la loi religieuse, des pratiquants de la religion, des gens qui n'acceptent pas la domination des Romains. Alors qu'Hérode, c'est tout le contraire. Hérode, il est là comme roi, nommé par César, par l'empereur romain. Il est la figure, le symbole de la domination des Romains sur le peuple juif. Et que les deux s'unissent pour venir à bout de Jésus, c'est parce qu'il y a une raison bien spéciale et que l'on va voir quand Jésus sera devant Pilate et Hérode. C'est que les pharisiens ont décidé qu'il fallait se débarrasser de Jésus. Et pour se débarrasser de Jésus, pour le faire condamner, il fallait qu'ils aient l'assentiment d'Hérode et de Pilate. C'est la raison pour laquelle ils s'allient avec Hérode pour mettre leur plan jusqu'au bout, pour pouvoir éliminer Jésus. Et ça les amène à faire des compromissions qui sont vraiment diaboliques, je dirais. Que les pharisiens s'unissent avec les partisans d'Hérode, c'est un peu comme si, je prendrais une comparaison, qu'un cardinal s'allie avec Oussama Ben Laden pour éliminer quelqu'un qui ne fait pas deux affaires. On dit, voyons, ça n'a pas d'allure. Mais ça avait à peu près pas plus d'allure que ça. Mais ça veut dire, par exemple, que ces gens-là étaient vraiment, mais vraiment contre Jésus et que Jésus les dérangeait beaucoup. Tout au long des évangiles, on voit donc que sans cesse, ils interviennent de toutes sortes de façons. Mais en même temps, ça nous permet de voir que Jésus, lorsqu'il est confronté aux pharisiens et à ces personnes-là, ça lui donne l'occasion aussi d'ouvrir des portes nouvelles, d'ouvrir des avenues inédites à ce moment-là. Et on peut le voir dans différents épisodes. Un jour, un pharisien qui s'appelait Simon invite Jésus à aller prendre un repas chez lui. Quand on regarde dans l'Évangile, puis j'ai fait ça un peu cette semaine, c'est vraiment spécial. Hein? Jésus, il est toujours en train de manger. Simon, le pharisien, l'invite à manger. Il va manger chez Matthieu. Après ça, c'est chez Zachée. Une autre fois, il va manger chez un chef de pharisien qui n'est pas identifié. On le retrouve après ça chez Marthe et Marie. Il est au noce à Cana. Je vous le dis, il mange toujours. C'est la raison pour laquelle on disait Jean-Baptiste, lui, jeûne, il ne boit pas de vin, il ne mange pas. Mais Jésus, votre maître, il parlait aux disciples, parce qu'il parlait au début, Jésus, votre maître, c'est un glouton, c'est quelqu'un qui boit. Bien, c'est parce que Jésus mangeait souvent chez les gens. Et il y a une raison à ça, c'est que les repas, aujourd'hui, mais plus spécialement dans le monde oriental, le temps des repas, c'est un temps, un moment par excellence de la communion entre les personnes. Et Jésus, lorsqu'il allait manger chez les gens, c'était l'occasion d'être en communion avec eux autres. Donc, un bonjour, Simon, s'il s'arrêtait. On va attendre la machine. Oups, où est-ce qu'elle est, ma bouteille d'eau? Ah! Donne le loin de l'œil. Parce que je ne veux pas vous en donner. On peut se lever. Je vous donne le loin de l'œil. Yeah. Jésus se retrouvait chez Simon le pharisien quand arrive une femme que tout le monde connaissait, c'est une pécheresse publique, qui arrive dans la maison parce que c'était courant, les maisons étaient ouvertes et les gens pouvaient entrer. En tout cas, on voit ça à plusieurs reprises, que quand Jésus va manger chez Zachée, chez Matthieu, les pécheurs, le monde rentre dans la maison. Et cette femme commence à laver les pieds de Jésus avec ses larmes, de les essuyer avec ses cheveux. Et Jésus se laisse faire. Il était libre, Jésus. Il n'y a pas de mauvaise pensée. Le pharisien Simon, qui voit ça, il dit à lui-même, j'ai ma réponse. Si cet homme était un prophète, il saurait c'est qui cette femme-là. Et Jésus s'adresse à Simon à ce moment-là. Il dit, Simon, j'ai quelque chose à te demander, quelque chose à te dire. Simon dit, parle, maître. Puis là, il raconte l'histoire où il y a deux hommes, un qui doit, mettons des chiffres d'aujourd'hui, 1 000 $, puis l'autre, il doit 100 pièces. Et le prêteur décide de remettre l'argent à tous les deux. Jésus dit, ben, Simon, lequel des deux va l'aimer le plus? Évidemment, c'est celui à qui il a remis 1 000 $, et l'autre va l'aimer aussi, mais moins. Et Jésus dit, t'as raison, Simon. Celui-là, t'as bien raison. Et ce qui est important, c'est que Jésus parle à Simon, mais regarde la femme. Et il dit à Simon, tu vois cette femme. Il l'invite à regarder lui aussi la femme. Tu vois cette femme. Elle m'a baigné les pieds de ses larmes, alors que toi, quand je suis arrivé, tu ne m'as pas offert à me laver les pieds. Elle me les a essuyés avec ses cheveux. Tu vois cette femme, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. C'est une ouverture énorme. Qu'est-ce qui pardonne les péchés? Selon Jésus, c'est l'amour que l'on montre. Et quand nos péchés sont pardonnés, on montre beaucoup d'amour, nos péchés sont pardonnés. C'est ce que nous faisons, nous autres, aujourd'hui, quand nous allons au sacrement du pardon. Quand on va au sacrement du pardon, on y va toujours parce qu'on se reconnaît pécheur. On reconnaît qu'on n'a pas aimé, en gros, qu'on n'a pas aimé comme on aurait dû aimer. Des personnes, le Seigneur, nous-mêmes. Et à ce moment-là, on va rencontrer Jésus dans le sacrement du pardon. Et parce qu'on aime beaucoup, nos péchés sont pardonnés. C'est, prenons le contraire, quelqu'un qui vient se confesser, qu'il y a de la haine contre son prochain, qui cherche une occasion, s'il y a une chance de faire une mauvaise passe, puis il vient au sacrement du pardon, Pensez-vous que ses péchés vont être pardonnés? C'est bien évident que non. Parce qu'il montre de la haine, ses péchés, ses nombreux péchés ne peuvent être pardonnés. Mais Jésus dit, parce qu'elle a beaucoup aimé, parce qu'elle aime beaucoup, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés. Et ça, c'est du neuf aussi. Pour Simon, le pharisien qui écoute, c'est du neuf que Jésus accomplit, ouvre des avenues nouvelles, dont nous autres, aujourd'hui, bien sûr, on bénéficie. Juste deux autres rencontres qui vont nous montrer que Jésus y accomplit des choses, il ouvre des avenues nouvelles. Et ces deux rencontres que vous connaissez bien, encore des repas, encore des snacks. Quand Jésus voit Lévi à son bureau de publicain et qu'il lui dit « Viens, suis-moi », aussitôt Lévi, Matthieu, laisse tout ça et suit Jésus. Même chose avec Zachée qui grimpe dans son arbre, il avait entendu parler de Jésus, il voulait juste voir lui, qu'est-ce qu'il avait l'air, ce gars-là. Il n'avait entendu parler, il ne l'avait pas vu. Puis Zachée était petit, de taille, alors il est monté dans un sycomore. Et Jésus dit à Zachée, « Mais descends ton âme. Je vais chez toi aujourd'hui, Zachée. Ça se fait pas, là. Je vais chez toi aujourd'hui. » Zachée sait que, comme publicain, il est un pécheur public. Il est banni de la religion, comme Matthieu. Et dans un cas comme dans l'autre, Jésus dit, « Je vais manger chez vous. » Et ce qui se ressemble, ça semble, bien, au repas de Zachée, comme à celui de Matthieu, beaucoup de publicains, de pécheurs étaient là pour partager le repas avec Jésus. Et là encore, les chefs religieux disent aux disciples, « Mais voyons, votre maître, là, il est pas correct, là. Il mange avec les pécheurs, il mange avec les publicains, ça se fait pas, il est impur en faisant ça. » Et Jésus qui entend ça, il ouvre quelque chose de neuf. Il leur dit simplement, le médecin, il est là pour guérir les malades et non pas les gens en bonne santé. Ces gens-là sont des personnes qui ont besoin de l'amour de Dieu, de savoir qu'ils sont aimés de Dieu, que leurs péchés sont pardonnés, parce qu'ils ont changé de vie. Matthieu a laissé son argent publicain puis a suivi Jésus. Il s'est converti. Il a fait un 190 degrés. Même chose pour Zachée. Au milieu du repas, Zachée se lève. Puis là, les gens pensaient qu'il ferait un beau discours, un peu comme ce que je vous fais ce matin. Mais non, Zachée, il reconnaît ses péchés, il fait une confession publique. Zachée dit, « Je vais rendre quatre fois ce que j'ai volé, ce que j'ai pris aux gens, je vais remettre quatre fois. » Mais ça, c'était la condamnation. Quelqu'un qui était pris à voler, la condamnation, c'était remettre quatre fois le montant volé. Et quand Zachée parle de remettre quatre fois, il se reconnaît comme quelqu'un qui a volé de l'argent en public. Il reconnaît ça en public, c'est une confession publique. Je vais donner aussi la moitié de mes biens aux pauvres. Ben, si c'est pas une conversion, c'est quoi? Et Jésus dit, à la fin de cet épisode-là, aujourd'hui, le salut est arrivé dans cette maison, la maison de Zachée, la maison de Matthieu, parce que ce sont eux aussi des fils d'Abraham. Jésus les reconnaît comme des fils d'Abraham, c'est-à-dire des gens qui ont confiance en lui, parce qu'Abraham, c'est l'homme de la foi. Et les enfants d'Abraham que nous sommes des croyants, des gens qui ont confiance en Jésus. Et Matthieu, Zachée, en l'occurrence, manifeste une confiance inébranlable en Jésus. Il change de vie pour le suivre, pour marcher à sa suite. Et Jésus en profite pour ouvrir une voie nouvelle. C'est de cette façon que Jésus accomplit la loi. Jésus, il ne vient pas pour abolir, mais à partir de la loi, il mène plus loin. Il ouvre des avenues nouvelles. Et on voit bien en Saint-Luc en quoi consiste plus précisément l'accomplissement dont Jésus parle. Jésus dit, je vous dis à vous de m'écouter, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Ça, c'est neuf, c'est nouveau. Parce que la loi ancienne, c'était la loi du talion. Faire du bien à ceux qui nous haïssent, pas question. Bénir ceux qui maudissent, c'est malade. Aimer nos ennemis, niet. Et voilà que Jésus dit, lui, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est un accomplissement, c'est une ouverture tout à fait nouvelle. Et Jésus y explique ça par après. Il continue en disant, si vous aimez juste ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les publicains et les pécheurs font la même chose. Ils aiment ceux qui les aiment. En regardant dans le monde d'aujourd'hui, c'est ça. Et nous autres aussi. Si on aime uniquement les gens qui nous aiment, nos amis, qu'est-ce qu'on fait d'extraordinaire? Je ne fais rien d'extraordinaire. Jésus dit, élargissez votre cœur. N'aimez pas juste ceux qui vous aiment. Les païens, tout le monde fait ça. Si vous faites du bien uniquement ceux qui vous en font, les retours d'ascenseur, comme on dit, rien de neuf, rien de nouveau là-dedans, tout le monde fait ça. Vous faites du bien même à ceux qui vous haïssent. Si vous prêtez juste à ceux qui vous prêtent, mes amis, mes proches, ça me fait plaisir, je vais te prêter mon automobile, je vais te prêter mon manteau, genre. Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les amis entre eux font ça, les gens, les pécheurs, tout le monde fait ça entre eux autres. Vous prêtez sans attendre de retour, sans attendre qu'on vous remette en retour ce que vous avez prêté. Et Jésus ajoute, votre récompense sera grande si vous agissez ainsi, et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, le Très-Haut, pour les ingrats et les méchants. Parce que Jésus l'a dit ailleurs, notre Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Il fait tomber la pluie autant sur les bons que sur les méchants, le soleil autant sur les justes que sur les injustes. Et il nous dit, et vous aussi faites de même, ne faites pas de différence entre les personnes. Et quand Jésus parle de pluie et de soleil, c'est plein de sens aussi. C'est pas juste, là, ça fait donc du bien d'avoir de la pluie, puis c'est donc fun la chaleur en été, en hiver aussi. C'est plus que ça. Parce que la pluie, c'est de l'eau. La pluie, c'est de la fécondité. Et quand Jésus dit, le Père fait tomber la pluie sur les justes comme sur les injustes, il fait tomber la capacité d'être fécond, de porter du fruit à toute personne, bon ou méchant. Et quand Jésus parle de soleil qui brille, le soleil c'est la chaleur c'est l'amour, c'est la proximité, c'est l'amitié. Et Jésus, quand il dit le Père fait briller son soleil, le Père donne l'amour à ceux et celles qui l'accueillent comme on accueille la chaleur du soleil. C'est de cette façon que Jésus accomplit la loi nouvelle. Et par son enseignement, par ses attitudes, Jésus fait en sorte que ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ça prenne une forme nouvelle, définitive, où se réalise en plénitude la loi ancienne. Parce que aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, c'était dans la loi ancienne, l'Ancien Testament. Et Jésus porte ça à sa perfection, en allant plus loin que les limites qui sont attachées à la loi ancienne, par rapport aux prochains, par rapport aux ennemis, par rapport à ceux et celles qui nous doivent. Jésus ouvre des portes. Ça m'amène à faire un pas de plus, qui là va être important pour nous autres aujourd'hui. On vient de voir comment est-ce que les pharisiens, jusqu'à quand, Jésus? On vient de voir Comment est-ce que les pharisiens, les chefs de la loi, voient Jésus, le considèrent? Ils le considèrent comme un ennemi de la religion juive, un ennemi, quelqu'un qui prend trop de liberté avec la loi, qui ne fait pas ce qu'il aurait le droit de faire, qui dépasse les limites. Et ça va conduire Jésus à mourir sur la croix. À un point tel que le grand prêtre, quand il demande à Jésus, « Es-tu le Fils de Dieu ?» dans le Sanhédrin, et Jésus dit, « C'est toi qui le dis. » Il déchire sa chemise, il déchire son vêtement, puis il dit, « Il blasphème. » Et auparavant, il avait dit, « Il vaut mieux qu'un homme meure pour le salut du peuple, pour faire en sorte que le peuple ne soit pas dévoyé de sa religion. Il vaut mieux qu'un homme meure, plutôt que tout le monde soit corrompu par son enseignement, entre guillemets. » Ça allait donc loin. C'est la façon dont ils voient Jésus. Pour eux, Jésus, un homme dangereux, menaçant pour la religion, quelqu'un qui veut tout changer, qui veut tout chambarder, quelqu'un dont il faut se défaire, qu'il faut anéantir. Là. Voyez mon geste, qui disparaisse. Mais maintenant, c'est bien beau voir comment les pharisiens les voient, Jésus. Mais on en arrive à se poser la question pour nous-mêmes. Pour nous, qui est Jésus? Pour nous, qui est Jésus? Et ça, cette question-là, Jésus lui-même l'a posée. Il l'a posée à ses disciples. Un jour où... Attends un peu, je vais retrouver mon texte dessus parce que... Un jour que Jésus marchait avec ses disciples vers le village, les villages voisins de Césarée de Philippe, Jésus demande à ses disciples, à ses apôtres, « Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? » Et les disciples disent, « Bien, pour les uns, ils disent, t'es Jean-Baptiste. Puis pour d'autres, tu es Élie, le prophète Élie qui est revenu. Puis pour d'autres, tu es un prophète. » C'est clair que c'est ce que les gens disaient. Et on voit même Hérode, qui à un moment donné, il est quand même attiré par Jésus, il y a quelque chose. Puis il entend les gens et dit, c'est le nouveau Jean-Baptiste. Hérode dit, ça se peut pas, Jean-Baptiste, je l'ai raccourci, comme dit René Côté. Ça ne peut pas être lui. Mais alors, c'est qui? Alors, quand Jésus entend ça, il leur demande après ça, « Maintenant, et vous? Qui dites-vous que je suis? Pour vous, qui suis-je? » Et là, vous connaissez la réponse de Pierre. Pierre dit, « Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Bien sûr que dans l'Évangile de Matthieu, Jésus dit, tu n'as pas trouvé ça de toi-même, c'est le Père qui te l'a fait connaître. Mais il y a un peu de Pierre là-dedans quand même. Si Pierre dit ça, c'est parce qu'il a vu des choses, il a entendu des choses. Pierre a vu que Jésus avait guéri bien des gens, qu'il avait libéré le cœur de bien des personnes qui étaient prises dans leur cœur, dans leurs amours fausses. Pierre avait vu tout ça. Et comme c'est un bon juif, Pierre, il connaissait les Écritures. Il n'était pas sans savoir, sans se rappeler, que Isaïe, c'est ce qu'il avait dit, le prophète Isaïe. Le Messie, quand il viendra, il annoncera la bonne nouvelle aux pauvres. Les boiteux marcheront, les aveugles verront, les sourds entendront. Il annoncera la paix, il apportera la paix dans le monde, la joie à être au service de Dieu. Pierre savait ça. Et quand il voit Jésus, guérit des aveugles, fait marcher des boiteux, rend Louis ou à des sourds. Pour vous qui suis-je, tout de suite il y a l'une, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et là, ce qui est surprenant, c'est que tout de suite, il faut que je retrouve ma page là, parce que ça ne marche pas. Excusez-moi, je vais prendre le temps.
Voilà.
Tout de suite après, Jésus commence à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que 3 jours après, il ressuscite. C'est quoi ça? Pierre vient dire, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant, et Jésus ne dit pas, non, tu n'as pas raison, là, une minute, là, tu dis vague. Non, Jésus accepte, tu as raison, Pierre. Et tout de suite après, au lieu de leur dire, mais maintenant, vous le savez, je suis le Messie, le Christ, allez le proclamer dans toutes les villes et villages, leur dire que moi, Jésus, qui suis au milieu de mon peuple, je suis le Messie attendu, celui pour les que vos pères. Non. Jésus leur dit, il fallait que le Fils de l'homme meure, soit crucifié. Et Jésus même leur commande sévèrement de ne pas parler de lui à personne. C'est 2 lignes dans l'Évangile. Mais il faut s'imaginer c'est quoi que c'était. Commande sévèrement. Commander sévèrement, c'est pas je dire, regardez les gars, là, bien sûr, Pierre a dit ça, mais soyez un peu discret là-dessus si vous voulez. Allez pas trop vite, prenez ça mollo, il ne faut pas en parler tout de suite. Non, non, non. Sévèrement, c'est dire un instant. Je veux que ça soit clair pour tout le monde. Je vous le commande, je vous le dis, ne parlez de ça à personne. Ne parlez de moi à personne. Ne leur dites pas « je suis le Messie ». Je vous l'ordonne. Ça, c'est sévèrement. Mais c'est même que Jésus commande sévèrement de ne parler de lui à personne. Pierre et les autres doivent être renversés. Mais c'est quoi l'affaire? Et surtout, quand Jésus enchaîne en leur disant que il faut que le Fils de l'homme soit mis à mort le 3e jour, etc. Ils ne comprennent plus. Pas du tout. C'est que Jésus, il sait, c'est un vrai juif. Hein? Et il sait que le Messie attendu, c'est un Messie, je dirais, civil, politique. Quelqu'un qui va faire en sorte que le peuple juif va en arriver à dominer le monde sous la conduite de ce Messie. Ce Messie est venu pour délivrer le peuple de toutes ses attaches, tous les gens, toutes ses dominations. Et c'est de même qu'il voit le Messie. Et Jésus, lui, c'est pas de même qu'il se voit, pas du tout. Nous autres, aujourd'hui, on le sait. Mais Pierre et les autres, dans le temps, ils ne savaient pas, eux autres. Nous autres, on le sait parce que Jésus, il est ressuscité, il est le Christ, le Messie, loin, là, celui qui a reçu l'onction de Dieu. On le sait, nous autres. Pierre et les autres ne le savaient pas à ce moment-là. Et que Jésus leur parle de même, ils ne comprennent absolument pas. Qu'est-ce que Jésus les amène à faire en parlant de cette façon-là? Il les amène à faire une démarche importante, et pour eux, et pour nous. La démarche de passer de l'extérieur à l'intérieur. Et tout cet extrait de l'Évangile, c'est ça que ça dit. Jésus invite les disciples, Pierre et les autres, à passer de l'extérieur à l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle il commence par leur demander, pour les gens, qui suis-je? C'est exactement ce qu'on fait, nous autres. Si quelqu'un me demande à moi, puis à vous autres, c'est qui pour toi, je nomme des noms de mes amis que vous ne connaissez pas, ce n'est pas des gens qui sont ici. C'est qui pour toi, Nicolas? C'est qui pour toi, Angèle? C'est qui pour toi, Yves, Johan, Céline? Pas une Céline d'ici, excusez. Bien, je peux répondre, mettons, Yves et Johan, ce sont des gens qui demeurent à Black Lake, qui sont à leur retraite, qui ont eu 3 enfants, un est décédé accidentellement. Angèle, c'est une femme qui a été coiffeuse, elle demeure présentement aussi à Black Lake, etc. comme les apôtres ont répondu à Jésus. Il y en a qui disent t'es Jean-Baptiste, d'autres qui disent t'es les prophètes. Si je dis ça, mes amis, c'est ça, c'est une connaissance extérieure des personnes. C'est quelqu'un qui reste à telle place, qui fait tel travail, qui a tant d'enfants, c'est extérieur. Et quand Jésus demande « Pour vous qui suivez », là, on passe à un autre palier, on passe à l'intérieur. Et concernant mes amis dont je vous parlais, si vous me demandez « Pour toi, ces gens-là, c'est qui ?» Là, c'est plus pareil. C'est pas du monde qui demeure à telle place, qui font tel job, non. Pour moi, ces gens-là, c'est des gens avec qui j'ai partagé des paroles de Dieu, partagé de grands temps de vie personnelle, la leur et la mienne. Ce sont des gens qui ont de l'importance pour moi, de véritables amis. Ce sont des gens pour lesquels je suis prêt à donner beaucoup pour leur venir en aide. Ce sont des gens qui ont fait beaucoup pour moi, qui m'ont aidé dans des passes plus difficiles. C'est ça pour moi, Joanne, Angèle, Yves, Paul, Muriel, etc. C'est ça pour moi. Et quand Jésus leur demande « Pour vous qui suis-je », il les amène à passer d'une connaissance extérieure à une connaissance intérieure de lui. La connaissance extérieure, c'est la connaissance du Messie qui est chef de guerre, qui est chef de nation. La connaissance d'un Messie qu'on peut comparer à Jean-Baptiste, qu'on peut assimiler à Élie qui devait revenir. Connaissance extérieure. Mais Jésus amène plus loin. Pour vous qui suivez. Et là, Jésus les amène à découvrir, à faire un bout de chemin pour peu à peu reconnaître quel genre de Messie il est. Quel genre de personnage il est. Et c'est la pédagogie, le chemin que les disciples vont suivre jusqu'après la résurrection. C'est juste après la résurrection qu'ils ont compris ça. Et à preuve, notre bon Saint-Pierre, moi je l'aime beaucoup Saint-Pierre, il y en a d'autres, c'est Saint-Jean, moi c'est Saint-Pierre. Parce que Saint-Pierre, il est vraiment, c'est un type très à fleur de peau, hein? Il ne flambe pas lui, là. Il décide et c'est vite. Vous vous rappelez, à la dernière scène, quand Jésus dit « L'un de vous va me trahir, puis les pharisiens, les gens vont vouloir m'arrêter tout ça », qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit « On a des armes ici, on va y aller, puis on va te défendre, ça ne se passera pas de même. » Jésus est obligé de lui dire une nouvelle, ça vient d'arrêter. Jésus est obligé de lui dire une deuxième fois, Pierre n'a rien compris. Parce que dans l'extrait dont je viens de vous lire, Pierre aussi intervient. Pierre, quand Jésus dit « il faut que je meure de ça », il dit « non, 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 Jésus, là, un petit peu plus loin, quand Jésus s'est éloigné d'eux autres, Pierre le rejoint, puis il dit « non, non, Jésus, je pense que ça ne marchera pas de même, tu n'as pas compris, là. On va s'organiser, puis ces gens-là, on va les neutraliser. » Ces gens-là, on va faire en sorte que tu ne pourras pas, tu n'iras pas à la mort, c'est certain. Pierre le tire à part et se met à le réprimander. Réprimander, c'est pas juste dire, j'ai l'impression que tu es allé un peu loin, Jésus. Non, non, réprimander, c'est dire, hey, là, je pense que tu as dépassé les limites. Ça ne se passera pas de même, Jésus, on va s'en occuper, puis je vais m'en occuper, tu vas voir. Et Jésus dit une parole qui est surprenante, mais qui est bien claire. Retire-toi. Derrière moi, Satan, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Pierre, ça a dû l'assommer un peu, mais Jésus, il persiste en disant, passe derrière moi, Satan. Satan, c'est une personnification de ce qui est l'adversaire de Jésus, celui qui va à l'encontre des plans de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus explique à Pierre, tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Tu te trouves à être du côté des hommes qui voient le Messie comme un chef politique, alors que moi, je suis venu au nom de Dieu et les vues de Dieu sont différentes de celles-là. C'est ça que Jésus invite à faire, passer de l'extérieur à l'intérieur. Et c'est l'invitation qu'il nous fait parce que l'accomplissement de la loi nouvelle, ça en est comme le nœud, comme le pilier, je dirais. Si on reste à des observances extérieures, on ne va pas loin. Et c'est hélas ce qui s'est passé dans notre Église il y a depuis 100 ans ou 20 ans. Tout le monde allait à la messe le dimanche. C'est une obligation, c'est un péché si on n'allait pas à la messe. C'est une observance extérieure. Je ne dis pas que les gens qui allaient à la messe ne priaient pas, que ce n'était pas du bon monde, puis tout ça. C'est pas ça du tout. Ne pensez pas que je sois venu abolir cette loi-là. Non. Mais c'est quoi que ça a donné? Ça a donné ce qu'on ramasse aujourd'hui. Quand il n'y a plus eu de contraintes extérieures pour amener les gens à l'Église, parce que dans mon temps, comme je disais tantôt, il y a de ça très longtemps, quelqu'un qui n'allait pas à la messe, fallait qu'il soit malade ou que ce soit un mécréant. Parce que si quelqu'un n'allait pas à la messe, là, on le savait. Tout le monde allait à la messe. Et si quelqu'un n'allait pas à la messe, le voisin n'allait pas à la messe, M. Morin nous disait, c'est parce qu'Adrienne, elle est malade aujourd'hui. Parce qu'il ne nous l'avait pas dit, on dit, Adrienne, elle n'a pas été à la messe aujourd'hui, on va surveiller la semaine prochaine pour voir si ça y est encore, si ça y est ou si ça y est pas. Observance extérieure. Quand il n'y a plus eu les remparts extérieurs et que que la société a changé dans les années 60, il n'y avait plus cet encadrement extérieur, mais ceux qui y allaient à la messe juste pour observer la loi religieuse, ça ne donne rien d'aller là, il n'y a plus d'obligation, il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien qui nous force d'aller là, et ils ont arrêté d'y aller. Celles et ceux qui continuent d'y aller, ils sont dans la ligne de l'accomplissement de la loi telle que Jésus le propose. Et aujourd'hui, les gens qui vont à la messe, bien, ils savent pourquoi ils y vont. Ils n'y vont pas parce qu'ils sont obligés. C'est la même chose pour le mariage. Quand je suis arrivé à Blackley comme curé en 84, j'ai fait, à partir du mois d'août jusqu'au mois de décembre, 16 mariages. Il y en avait eu 38 cette année-là. La première année que j'ai été à Blackley, j'ai eu 38 mariages. Deuxième année, ça a baissé un peu à 37. Après ça, 35. Ça a baissé comme ça. Et la dernière année que je suis parti, il y en avait 4. Que c'est pas moi que j'ai fait, c'est le nouveau curé qui les a fait après le mois de juin. Mais c'est ça qui se passait dans le temps. Les gens qui se mariaient, la majorité savait ce qu'ils faisaient. Mais il y en a plusieurs qui se mariaient parce que fallait bien se marier. Nos parents, si on ne se marie pas, ils vont dire qu'on est en concubinage, on vit dans le péché, tout ça, donc on se marie. Mais aujourd'hui, c'est bien différent. On bénit les mariages de beaucoup moins de monde. Moi, quand j'en ai un actuellement par année, j'en ai pas un par année. Quand j'en ai un par année, c'est une bénédiction. Parce que les gens qui demandent à se marier, ils sont prêts. Ils savent. Et le sacrement de mariage est plein de sens pour eux. Le sacrement de mariage, c'est vraiment pour eux un signe de l'amour du Seigneur présent dans leur vie d'amoureux et qui leur manifeste sa bonté, sa fidélité à lui, Jésus, le Seigneur, et les amène à vivre aussi de la fidélité entre eux en s'appuyant sur le Seigneur. C'est de même qu'ils vivent le mariage. Mais c'est bien différent d'un mariage que j'ai fait à un moment donné, où quand le marié est arrivé, il dit « ça va-t-il être bien long? » Et là, le père du marié, il dit « ouais, ce qu'il vous dit là, ça va-t-il être bien long? » J'ai dit « monsieur, ça ne sera pas long. 35 minutes et vous êtes sorti de l'église. » Et pendant le temps que je faisais l'homélie, le marié, lui, surveillait la caméra. Dans ce temps-là, c'était des caméras avec des flashs. Là, il surveillait la caméra puis il disait « oh, prends ça. » Je faisais l'homélie. 35 minutes, ça a été fait. Pour moi, ce mariage était nul. Et il a été déclaré nul par après, parce qu'il est arrivé un événement spécial dans le couple. Là. Je ne vais pas en parler. c'était nul, c'était l'accomplissement, c'était la loi stricte. Mais Jésus, en disant qu'il accomplit la loi, qu'il la pousse à sa perfection, c'est ce dont nous bénéficions d'aujourd'hui. Je conclue de cette façon, en vous rappelant des paroles du Seigneur, et des paroles, entre autres, d'abord de l'Ancienne Alliance. Avec ces paroles de Jésus, dont on a parlé ici, se réalise la prophétie de Jérémie. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est ce que Jésus est venu faire quand il est venu sur la terre. Il n'a rien aboli, mais il a fait en sorte que la religion se vive au niveau du cœur, non pas d'une manière extérieure, mais d'une manière intérieure. Ma loi est écrite au plus profond d'eux-mêmes, inscrite dans leur cœur. Et avec Jésus, Dieu vient transformer l'être humain jusqu'au plus profond de lui-même, comme il l'avait dit par la bouche du prophète Ézéchiel. Et on en a vu des transformations d'êtres humains. Pensez à la Samaritaine, la femme pécheresse chez Simon, Matthieu, Zachée, tous ceux qui ont été transformés, qui ont été des êtres humains transformés, améliorés. Mais le prophète Ézéchiel l'avait prédit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Cœur de pierre, froid, dur, by the book. Cœur de chair, compréhensif, accueillant, ouvert, amical, plein d'amour. Vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. » Et une autre phrase qui loue tout cela. « Alors, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, dit l'auteur de l'Apocalypse, Jean. Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Le Dieu qui est avec eux, il essuiera toute larme de leurs yeux. Voyez, je fais toute chose nouvelle. » C'est ce qu'on retrouve dans l'Apocalypse au chapitre 21. C'est ce qui clôt ce que Jésus est venu dire et faire. Accomplir la loi, non pas l'abolir, mais l'accomplir, l'amener à la perfection dont nous bénéficions, nous, aujourd'hui, qui croyons en Jésus vivant ressuscité, qui savons qu'il est présent à notre vie. Telles sont les paroles de la fin du livre, l'Apocalypse. Telle est mon espérance, et telle est aussi, j'en suis convaincu, chers frères et chères sœurs, votre espérance à vous aussi. Et Jésus, qui est au milieu de nous, chanterait certainement avec nous, « Je voudrais, quand vous voyez en vivre, si vous voulez, on va le chanter. »
Je voudrais, quand vous voyez en vivre,